Court-circuit.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des trucs en lien avec l'écologie. Et le Lab 01. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Guillaume.
Salut.
Alex.
Bonjour.
Et une petite nouvelle, Colline.
Bonjour à tous.
Et je suis Mathilde. Alors, on entend souvent parler, et pas souvent en bien d'ailleurs, des lobbies et de leur puissance. Mais dans le fond, que sait-on d'eux et de leur fonctionnement? Eh bien, nous vous proposons, Mathilde et moi, aujourd'hui, de vous en dire un peu plus sur eux, en commençant par une petite définition. Alors, un lobby, c'est un groupement, une organisation ou une association défendant des intérêts financiers, politiques ou professionnels en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, notamment les organes de presse. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire lobby en anglais?
Pas du tout.
Ça veut dire couloir. Voilà, j'ai pas d'explication. Ils traînent dans les couloirs.
Ouais, c'est ce qui se passe à côté, je pense.
Ouais, c'est ça. En fait, quand on analyse les lobbies en France, on s'aperçoit qu'ils sont assez variés. Donc, il y a 20% qui sont des ONG ou des associations du type WWF. Un tiers qui sont des sociétés privées, comme Deliveroo, Nexity, Google. Et un tiers qui sont des organismes représentatifs, comme le MEDEF ou le syndicat des agriculteurs. Et il y a aussi, évidemment, des cabinets de conseil qui sont 5%. Donc, ils représentent l'intérêt lié à trois sujets principaux, l'économie, l'environnement et la santé. Franchement, ce n'est pas très rassurant entre nous. À Bruxelles, ils sont pas moins de 50 000, dont 24 700 qui travaillent à temps plein. Eh oui, c'est énorme. Mais il n'y en a que 1600 qui ont accès au Parlement européen.
Ça va.
Google déclare avoir dépensé 6 millions d'euros en lobbying à Bruxelles en 2022, rien qu'en une année. Et en 2021, les dépenses en conseil de l'État français se sont élevées à 983 millions d'euros. Grosse somme en jeu. Et sachez, si ça vous intéresse, que vous pouvez devenir lobbyiste, puisqu'il y a l'Institut supérieur européen du lobbying qui décerne un diplôme d'université de lobbying à Strasbourg.
Au plus proche, ouais.
Ça vous dit?
C'est un master au moins. Master 2.
Alors, comment ces gens-là travaillent? On l'a un petit peu dit, ils tentent de participer à l'écriture des lois plutôt qu'en subir les conséquences. Jusque-là, c'est assez logique. Et pour cela, ils publient des rapports, ils font signer des études par des chercheurs de renom et ils diffusent ces mêmes études dans des revues scientifiques. Ces données sont censées influencer les décideurs qui, par manque de temps et de moyens, ne peuvent pas se les procurer autrement. Sachez qu'à Bruxelles, en 13 ans, il y a eu 1500 postes de fonctionnaires qui ont été supprimés. Pourtant, il faut bien continuer à gouverner. Donc, d'autant que ces décideurs ne peuvent pas être des experts dans tous les domaines. Donc, c'est une source d'information qui leur donne la légitimité en fait, au lobby. Le lobby, en fait, c'est un peu le chaînon manquant entre la société civile et les décideurs politiques. Ils font en sorte d'avoir des rapports privilégiés, donc sur le long terme, avec des politiques, en organisant des déjeuners, en les invitant à des événements, en leur offrant de beaux voyages, tout frais payés, dans de beaux endroits. Et c'est ce qu'on appelle la capture du régulateur. Sachez que, par exemple, le député La République En Marche, Mathieu Orphelin, a déclaré avoir reçu pas moins de 115 lobbies. Rien qu'en un semestre, en 2018. Ça donne l'idée de leur influence. Mais les parlementaires, ce ne sont pas les seules cibles. Il y a aussi les cabinets des ministres, les hauts fonctionnaires de toutes sortes, les assistants parlementaires. Tous ces gens sont aussi approchés. Et un rapport du Sénat publié en mars 2022, il s'alarmait un peu de l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Petit conseil, il y a un super documentaire sur YouTube qui s'appelle « Les lobbies au cœur de la République ». Alors, il date un petit peu parce que c'est l'époque où Chirac était encore président. mais il est assez intéressant. On y suit en particulier Thierry Coste, qui est un lobbyiste, voilà, très connu lobbyiste chasseur. Et on le voit par exemple qui rentre à l'Assemblée nationale, qui est un espace totalement interdit aux lobbyistes, grâce à un badge de collaborateur offert par son ami Thierry Mariani, un député UMP. Donc en fait, ces petits filous, ils arrivent toujours à détourner les lois pour être encore plus proches de leurs amis. Guillaume.
Ah bah moi, je peux dire que j'admire les lobbies. Eh oui, j'admire la FNSEA, le lobby agricole qui milite pour qu'on balance plein de produits dangereux sur nos cultures, dans nos campagnes, détruisant les sols, tuant la biodiversité et même polluant l'eau. J'admire la Fédération nationale des chasseurs, les fameux premiers écologistes de France. Et ils sont parvenus à nous faire croire qu'ils sont vraiment les premiers écolos de notre pays. C'est vraiment une réelle prouesse. J'admire les lobbies des pétroliers qui savent depuis bien 50 ans que les émissions de gaz à effet de serre détraquent le climat, mais bon, ils défendent corps et âme leur business, qui est quand même plus important que le climat. J'admire les lobbies de la viande, qui parviennent même à infiltrer les écoles de nos enfants pour leur faire croire que le steak haché servi à la cantine provient d'une vache et a une belle vie à pâturer et gambader tranquillement dans les prés. J'admire les lobbies de la bagnole, luttant contre la réduction de la vitesse maximale et contre tous les aménagements pour les piétons et pour les vélos aussi. Et enfin, j'admire aussi le lobby de l'aviation, qu'on y est, hein, qui nous fait miroiter l'avion propre, alors qu'on sait que c'est à peu près une douce chimère.
Au niveau de leurs obligations, en France, il y a la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui leur impose en fait de se déclarer pour apparaître dans le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et figurez-vous que c'est consultable en ligne par tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont 2915 à être inscrits. Et cette loi, elle encadre aussi leur activité. Donc, ils doivent être transparents sur leur identité, sur leurs intérêts, enfin, les intérêts qu'ils défendent. Et des contrôles sont faits sur ce répertoire. Mais évidemment, tout le monde ne s'est pas inscrit. Et en fait, c'est quand même 1 an de prison et 15 000 euros d'amende hein, si on ne s'inscrit pas. Et au niveau européen, il y a aussi un registre qui s'appelle le registre de transparence. Où l'ensemble des entités doivent également s'inscrire. Alors là-bas, ils sont 12 294. Là, je parle des entités. Et ils doivent y consigner les rendez-vous à la Commission, au Parlement, le budget consacré à leur fonctionnement. Mais son contrôle, il est totalement aléatoire, puisque il y a seulement 10 équivalents temps plein pour les contrôler. Évidemment, ça ne va pas suffire. Donc ce dispositif, il a quand même été renforcé en 2021. Suite à un scandale qui s'appelle le Qatargate, que je vous invite à aller voir, c'est assez déroutant. Justement, ce fameux registre, je l'ai consulté et je vous propose un petit jeu. Ah. Je vous donne une liste de lobbies inscrits sur ce registre. Certains sont vrais et d'autres, je les ai totalement inventés et vous devez choisir. C'est bon pour vous ?
Parfait.
La Fédération française de la chaussure.
Bon, ça doit exister.
Oui, ça peut.
Tout à fait, c'est vrai. L'Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs.
Oh, oui, ça existe. Ça.
Sans aucun doute.
Bon courage à eux, hein, d'ailleurs, ça ne doit pas être simple. Un truc magnifique qui s'appelle Boisson rafraîchissante de France.
Non, tu l'as inventé celui-là.
Je ne l'ai même pas inventé.
Ah bon ?
Il s'appelle vraiment comme ça. Le RCF, Rassemblement des célibataires de France.
Un lobby, ça ?
Non. Non, inventé. Non.
Je l'ai inventé,
plus
mais ça
RCF, fait ça doit exister pour autre chose, en plus.
Le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre.
Ah, si.
Oui. Oui.
Mais oui. Fédération des ascenseurs.
Ah bah, c'est jamais.
C'est très important.
C'est important de se placer, là.
Oui, c'est vrai. L'Union nationale des chauves de France.
Est-ce qu'il y a un lobby derrière ? Peut-être pas,
ça
non.
Pourrait, tu vas peut-être donner des idées. Mais oui.
Non,
ça n'existe pas. Les amis du papier peint.
Ah, ah si.
Oui. Oui. Non, non, pas du tout. Ah, je suis contente, je vous ai piégé quand même. La Fédération nationale des coopératives de collecte et de transformation de la betterave.
Oui,
oui.
Ah, ils sont, très, ils sont très puissants, eux, en plus. Non, mais c'est vrai. Hein.
C'est vrai. Le réseau national des porteurs de dentiers.
Non, c'est trop gros, là.
Non, c'est pas vrai. L'Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium.
Ah oui. Si,
une alliance, oui.
Vous êtes fort, vous êtes fort. Le cercle de l'arbalète.
Ah,
J'ai mal à l'imaginer.
Sauf si ça part d'arbalète, mais non.
C'est pas un lobby arme à feu.
Mais si, ça existe.
Oh. Oui, ce que j'allais dire, sinon, t'avais vraiment une imagination assez débordante.
Et pour finir, 60 millions de mangeurs de frites.
Oh, si, la patate, c'est.
Il y a de l'argent là-dedans.
Non, c'est pas vrai.
Oh mince.
Je vous ai coincé. Bon, revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces lobbies, alors, si tout le monde s'inscrit dans les registres et est parfaitement transparent, qu'est-ce qu'on peut bien leur reprocher? Déjà, ils sont tout simplement pointés du doigt parce qu'on leur reproche d'entraver le bon processus démocratique, puisque leur objectif, c'est d'influencer les décideurs. Donc, ceux-ci risquent d'être biaisés et de perdre leur indépendance. Il y a aussi pas mal de conflits d'intérêts. Il y a un rapport publié en 2017 par une ONG bruxelloise qui montrait que 46% des experts siégeant à l'Autorité européenne de sécurité des aliments étaient en conflit d'intérêts avec les secteurs industriels régulés par cette même agence. Et sachez que les assistants parlementaires, ils peuvent travailler en parallèle, en même temps, hein, dans un cabinet de lobbying. Ça ne pose aucun problème législatif. On a 2-3 exemples à vous donner. Par exemple, celui du Nutri-Score.
Oui, alors c'est peut-être l'exemple qui va être le plus parlant pour nos auditeurs. Donc le Nutri-Score, hein, vous voyez cette petite étiquette que l'on retrouve sur les emballages. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la France joue le jeu, tout comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore le Luxembourg. Mais l'objectif au départ de la Commission européenne, hein, en 2021, était effectivement d'homogénéiser ce Nutri-Score pour que tous les pays de l'UE puissent sur leurs emballages avoir effectivement un petit logo qui étiqueterait le Nutri-Score des aliments. Aujourd'hui, on en est toujours là. Ce n'est pas le cas au sein de l'UE. Effectivement, il y a des lobbies qui se sont vraiment accélérés, j'allais dire, depuis 2021, dans l'idée en fait, de la feuille de route de la Commission européenne qui était Farm to Fork, qu'on pourrait traduire de la ferme à la fourchette. Et depuis, en fait, les gros industriels, tout comme les producteurs, se retrouvent à être dans des associations diverses et variées. On peut citer effectivement une association de No Nutri-Score Alliance qui a vu le jour en Italie par le groupe Ferrero, qui en tout cas mettent vraiment des bâtons dans les roues, j'allais dire, pour qu'on ait un jour une homogénéisation de ce Nutri-Score. Donc ça pose question, puisqu'on est quand même sur 53% de personnes en surpoids, hein, sur toute l'Union européenne. Et on voit bien qu'il y a gros conflit entre santé publique et sujet économique et financier. Voilà, donc le Nutri-Score est vraiment le sujet où on se rend compte du poids important des lobbies et qui nous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir accès à ce qui se passe dans nos assiettes, à ce qu'on mange. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que les gros industriels de junk food et les petits producteurs locaux se retrouvent d'accord à dire que boue, c'est pas bien et c'est contre la bonne gastronomie. Voilà, donc ça fait poser question.
Et je vous invite d'ailleurs à aller voir le site de Nutri-Score, nutriscore.blog, parce qu'il dénonce point par point les arguments qui sont tous sauf scientifiques, avec beaucoup de mensonges, en fait, des choses vraiment reprises des lobbies qui sont complètement fallacieux, hein, on va dire le mot. Il y a un lobby aussi auquel je pense qu'on pense en premier en termes de malhonnêteté, c'est celui du tabac, qui est probablement le plus emblématique. En 1953, il y a des journaux américains qui publient les premiers rapports scientifiques qui démontrent le lien entre tabac et cancer. Évidemment, panique chez les cigarettiers. Mais les publicitaires viennent à la rescousse, ils intègrent un personnage rassurant qui est le médecin qui fume. Et oui, on trouve toutes sortes de pubs avec des médecins, avec la clope au bec. Il y a même des médecins, des pubs qui disent « Les médecins fument plus de camel que n'importe quelle autre cigarette. » Et puis les industriels se réunissent pour défendre leurs intérêts et ils cherchent alors à influencer la recherche scientifique. Ils créent le CTR, le Council for Tobacco Research. Son objectif, c'est de financer des recherches scientifiques pour entretenir le doute sur la toxicité du tabac. Ils ont carrément acheté des scientifiques, hein, pour mentir. Ils ont investi 300 millions de dollars pour ça. Et ça fonctionne, puisque aux États-Unis, le lien entre tabac et cancer n'est reconnu qu'en 1964, soit 10 ans plus tard, ce qui représente 8 000 milliards de cigarettes vendues pendant cette période. C'est super. Et en fait, en 1994, il y a 46 États américains qui ont carrément attaqué les cigarettiers pour leurs mensonges. Et les dirigeants des 7 plus grandes entreprises de tabac sont appelés à la barre. Ils affirment tous, un par un, que la nicotine n'est pas addictive. Mais ils ont quand même, 4 ans plus tard, été sanctionnés de 188 milliards de dollars. Et ils ont été invités à arrêter de cibler les jeunes aussi sur leurs cigarettes. C'est un très gros scandale qui a été d'ailleurs montré dans le film Thank You for Smoking, je ne sais pas si vous l'avez vu, de 2005. Mmh. Là, on parle de gros lobbies, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu un lobby, en fait ?
Je suis un lobby citoyen. Ben, on est tous des lobbies, finalement, quand on vient à ce genre d'émission et qu'on sensibilise. Alors moi, je sensibilise via des fresques, du climat, je sensibilise dans mon entreprise. Alors je suis un lobby à mon échelle, en fait, hein, l'échelle plus locale. J'influence moins les lois, mais j'influence mon entourage, toutes les personnes que je croise. Et ben, j'essaye de porter un peu ce message-là autour de moi, tout simplement.
On est tous un peu un lobby. Un événement à nous proposer, Guillaume ?
Ouais, alors une chaîne YouTube, chaîne Amis des Lobbies, ouais, donc à voir, absolument indispensable. Ouais. Et puis un événement, 1001 fresques. Donc 1001 fresques, c'est le 11 novembre sur Lyon. Des fresques du climat, de la biodiversité, du numérique, tout concentré au Palais des Sports, donc immanquable, le 11 novembre.
On vous invite à y aller. Notre émission touche à sa fin. Sachez que vous pourrez retrouver les podcasts de nos émissions précédentes sur le site internet de Radio B. Et si vous souhaitez donner des idées de sujets, vous pouvez nous écrire à court-circuit@lab01.fr. Au revoir, à bientôt.
Salut.
À bientôt.
Court-circuit.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.